Chapitre 28. Durant les jours qui suivent le dragage du fleuve et l'absence de découverte, à part quelques débris peu probants, de l'épave du vaisseau et de tout cadavre de la fillette ou de ses compagnons, le père capitaine de Soya s'attend à être traduit en cour martiale, voire à être excommunié. Le courrier archange est expédié sur Passem avec la nouvelle. 20 heures plus tard, le même vaisseau, avec des courriers humains différents, revient porteur du verdict. Une commission d'enquête va être constituée. De Soya hoche la tête en écoutant la chose. Il voit là un prélude à son retour sur Passem et à son passage en cour martiale, ou pis. Le plus surprenant, c'est que le père Brown est chargé de présider la commission d'enquête en tant que représentant personnel du secrétaire d'État Simon Augustino, cardinal de Lourdes-Samy. Le capitaine Wu remplace l'amiral Maruzine, de la flotte de la Pax. Les autres membres de la commission comprennent deux des amiraux présents durant la débâcle, ainsi que la commandante Barnes Avni. De Soya a le droit de prendre un avocat, mais il refuse. Le père capitaine n'est pas mis aux arrêts durant les 5 jours où siège la commission. Il n'est même pas assigné à résidence. Mais on lui signifie qu'il doit rester à la base militaire de la Pax, dans les faubourgs de Vinci, jusqu'à la fin de la session. Pendant ces 5 jours, le père capitaine se promène souvent sur le sentier qui longe le fleuve dans l'enceinte de la base. Il regarde les nouvelles à la télévision locale et sur les canaux directs. De temps à autre, il observe le ciel, essayant d'imaginer l'endroit où son Raphaël continue de tourner sur son orbite d'attente, vide et silencieux à l'exception des systèmes automatiques. De Soya espère de tout son cœur que son prochain commandant de bord lui apportera plus d'honneur. Beaucoup de ses amis viennent lui rendre visite. Gregorius, Key et Rettig sont toujours officiellement ses gardes du corps, bien qu'ils ne portent plus d'armes et qu'ils soient, comme De Soya, confinés à l'intérieur de la base, aux arrêts virtuels. La mère capitaine Boulez, le capitaine Hearn et la mère capitaine Stone passent tous le voir après avoir témoigné devant la commission et avant de repartir en mission. Ce soir, De Soya aperçut les flammes bleues de leurs vaisseaux respectifs qui prenaient leur essor vers les étoiles et il s'est pris à les envier. Le capitaine Sati, du Saint-Antoine, prend un verre de vin avec lui avant de regagner son vaisseau torche et le service actif dans un autre système. Même l'Emprière vient le voir après son témoignage. Et c'est la sympathie hésitante du capitaine Chauve qui a finalement le don de le mettre hors de lui. Le 5e jour, De Soya passe devant la commission. La situation est étrange. Il détient toujours le disque papal et se trouve donc techniquement à l'abri de tout reproche et de toute accusation. Mais il est implicitement établi que la mise en place de cette commission correspond à la volonté du pape Jules, à travers celle du cardinal Lourdes-Samy. De Soya, rompu à la discipline par son double entraînement de militaire et de jésuite, se soumet avec humilité. Il ne s'attend pas à être acquitté. Dans la tradition des commandants de vaisseaux depuis le Moyen-Âge de l'Ancienne Terre, il sait parfaitement bien que la médaille des prérogatives de celui qui occupe ses fonctions a un revers. Seul maître à bord pendant l'action, il accepte, en contrepartie, la responsabilité totale des échecs qui les suit ou des dommages que peut subir son vaisseau. De Soya n'a fait subir aucun dommage à son bâtiment, ni au corps expéditionnaire qu'il commande, ni au Raphaël qu'on lui a confié. Mais il est vivement conscient que son échec est total. Avec à sa disposition les immenses ressources de la Pax à la fois sur Hyperion et dans l'espace de Renaissance, il n'a pas été capable de capturer une fillette de 12 ans. Il ne se trouve pas d'excuses, et c'est ce qu'il admet devant la commission. « Pourquoi avez-vous donné l'ordre d'irradier le portail d'Istran sur le vecteur Renaissance ?» demande le père amiral Coombs après sa déposition. De Soya lève un bras en l'air, puis le laisse retomber. « J'ai compris subitement que la seule raison de la venue de la fillette sur ce monde était d'atteindre ce portail, » dit-il. « Notre seul espoir de la capturer était de détruire l'arche avant qu'elle ne l'utilise. »
« Mais elle n'a pas été détruite, »
interroge le père Brown. « Non, » répond De Soya.
« À votre connaissance, père capitaine De Soya,
demande le capitaine Wu.
Existe-t-il des cibles qu'une minute de RCC continue ne puisse détruire ?
De Soya réfléchit un instant. Il en existe, oui. Par exemple, les forêts orbitales ou les astéroïdes des essaims extraux. Une minute d'irradiation ne suffirait pas à les détruire, mais leur infligerait indubitablement de très sévères dommages.
Et le portail d'Istrance n'en a pas subi, insiste le père Brown.
Pas à ma connaissance. Le capitaine Wu se tourne vers les autres membres de la commission.
Nous sommes en possession d'une déclaration de l'ingénieur planétaire en chef Rexton Hamn, attestant que l'alliage du portail d'Istrance, bien qu'il ait irradié de la chaleur pendant plus de 48 heures, n'a été en aucune manière endommagé par cette attaque.
Les membres de la commission échangent des commentaires à voix basse durant plusieurs minutes. « Père capitaine de Soya, » fait l'amiral Serra lorsque l'interrogatoire reprend.
« Êtes-vous conscient de ce que votre tentative de détruire le portail aurait pu également causer la destruction du vaisseau de la fillette ?»«
Oui, amiral. »
« Et par la même occasion, » continue Serra, « causer la mort de l'enfant. »«
Oui, amiral. » »«
Vos ordres, catégoriques, étaient de conduire cet enfant vivante sur Passem. Est-ce exact ?»«
Oui, amiral. C'est ce que mes ordres stipulaient. » »«
Mais vous avez pris sur vous de les contredire. »
De Soya prend une inspiration profonde.
Dans ce cas précis, amiral, j'ai pensé que le risque calculé en valait la peine. Mes instructions précisaient qu'il était de la plus haute importance de conduire l'enfant sur Passem le plus rapidement possible. Dans les quelques secondes où j'ai compris qu'elle voulait peut-être utiliser le portail pour nous échapper définitivement, j'ai pensé que notre meilleure chance était de le détruire. Je parle du portail et non du vaisseau, bien sûr. Honnêtement, je ne savais pas si le vaisseau avait déjà franchi le portail ou s'il ne l'avait pas encore atteint. Selon toute vraisemblance, il a été touché et tombé dans le fleuve. J'ignorais s'il était capable de franchir le portail sous l'eau et si le système d'Istrance pouvait opérer dans ces conditions.
Le capitaine Wu croise les bras.
À votre connaissance, père capitaine, ce portail a-t-il donné des signes d'activité depuis cette nuit-là ?
Pas à ma connaissance, capitaine.
« Avez-vous eu connaissance, » continue Wu, « d'une quelconque activité d'un portail d'Istrance, ou que ce soit sur l'un des anciens mondes du Retz ou même dans l'espace, depuis 270 années standard ou plus ?»«
Je n'en ai pas eu connaissance, » répond De Soya. Le père Brown se penche en avant.
« Dans ce cas, père capitaine, vous pouvez peut-être indiquer à cette assemblée la raison pour laquelle vous avez jugé cette fillette capable de faire fonctionner l'un de ces portails et de s'échapper à travers celui qui nous intéresse. »
De Soya écarte les bras, paumes ouvertes.
« Je ne sais pas. J'ai eu soudain le sentiment qu'elle était sûre de nous échapper et que sa fuite le long du fleuve ne pouvait que… Je n'en sais pas plus, père Brown. » L'utilisation du portail était la seule chose qui donnait un sens à tout ce qui venait de se passer.
Le capitaine Wu se tourne vers les autres membres de la commission.
Autre question ?
Au bout d'un moment de silence, elle s'adresse de nouveau à De Soya.
Ce sera tout pour le moment, père capitaine De Soya. La commission vous fera part de ses conclusions demain matin.
Il incline la tête et se retire. Ce soir-là, tout en faisant sa promenade le long du fleuve, il essaie d'imaginer ce qu'il deviendra s'il passe en cour martiale et s'il est déchu de sa prêtrise sans être emprisonné. L'idée de demeurer en liberté après un tel échec est encore plus pénible que la perspective d'aller en prison. La commission n'a pas parlé d'excommunication, elle n'a évoqué en fait aucun châtiment. Mais De Soya se voit déjà condamné, renvoyé sur Passem pour y être jugé par une instance supérieure et finalement banni de l'Église. Seul un terrible échec ou un acte d'hérésie peut valoir à quelqu'un un châtiment aussi terrible, mais De Soya considère, en toute lucidité, que cela correspond à son cas. Au matin, il est convoqué dans le bâtiment bas où la commission a siégé toute la nuit. Il se met au garde-à-vous devant la douzaine de femmes et d'hommes qui occupent la table longue. Père capitaine de Soya, commence le capitaine Wu, prenant la parole au nom des autres. Cette commission a été constituée pour répondre aux questions du haut commandement de la Pax et du Vatican concernant le déroulement et l'issue des récents événements, plus particulièrement sous l'angle du revers subi par nos forces et leurs commandants à l'occasion de la tentative de capture de l'enfant connu sous le nom d'Aîné. À l'issue de 5 jours d'enquête et de plusieurs centaines d'heures de témoignages et de dépositions, la présente commission conclut que tous les efforts et tous les préparatifs possibles ont été accomplis pour mener cette mission à bien. Le fait que l'enfant connu sous le nom d'Aîné ainsi que les éventuels compagnons ou entités qui voyagent avec elle aient pu s'enfuir par l'intermédiaire d'un portail d'Istrance hors service depuis près de 3 siècles standard ne pouvait être prévu par vous ni par aucun officier sous vos ordres. Le fonctionnement inattendu d'un portail d'Istrance représente, naturellement, un souci majeur pour l'Église et pour le haut commandement de la Pax, et fera l'objet d'un examen attentif aux plus hauts échelons de la hiérarchie militaire et du Vatican. En ce qui concerne votre rôle dans ces événements, père capitaine de Soya, hormis le reproche qui peut vous être adressé d'avoir mis en danger la vie de l'enfant que vous étiez chargé de capturer vivante, nous déclarons que vos actions ont été responsables, correctes, conformes aux priorités de votre mission et, d'une manière générale, totalement licites. La présente commission, bien qu'elle n'ait officiellement que le droit d'enquêter, recommande que vous poursuiviez votre mission à l'aide du vaisseau Raphaël de la classe Archange, que vous continuiez d'utiliser l'autorité du disque papal et que vous réquisitionnez tous les matériels et personnels utiles à la poursuite de votre mission.
De Soya, toujours au garde à vous, bat plusieurs fois des paupières avant de demander.
Capitaine ?
Oui, père capitaine ?
Cela signifie que je peux conserver le sergent Grégorius et ses 2 troupiers comme garde du corps ?
Le capitaine Wu, dont l'autorité dépasse curieusement celle des amiraux et commandants planétaires réunis à cette table, a un petit sourire.
Père capitaine, déclare-t-elle, vous pouvez, si vous le désirez, ordonner à n'importe quel membre de cette commission de vous accompagner comme aide de camp et il le fera. L'autorité de votre disque papal demeure absolue.
De Soya, pour sa part, ne sourit pas.
Je vous remercie, capitaine, ainsi que les membres de cette commission. Le sergent Grégorius et ses 2 hommes suffiront. Je pars demain matin.
Vous partez où, Federico ? Demande le père Brown. Comme vous le savez, nos recherches les plus poussées n'ont pas permis de déterminer où le portail d'Istrance a pu envoyer ce vaisseau. Le fleuve Tétis avait des interconnexions variables et nous n'avons aucune idée du monde qui se raccordait à cet endroit.
Je sais, père Brown, fait de Soya. Mais le Tétis ne reliait que 200 mondes environ. Le vaisseau de l'enfant se trouve forcément sur l'un d'eux. Mon vaisseau Archange peut les explorer tous, compte tenu du temps de résurrection après translation, en moins de 2 ans. Je dois commencer mes recherches immédiatement.
Les hommes et les femmes assis autour de la grande table lui jettent des regards interloqués. L'homme qui se tient devant eux n'hésite pas à envisager de subir les affres de plusieurs centaines de morts et de résurrections. À leur connaissance, personne, depuis qu'existe le sacrement de la résurrection, ne s'est jamais soumis à un tel cycle de douleur et de régénérescence. Le père Brown se met debout pour lever la main en signe de bénédiction.
« In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti »,
psalmodie-t-il.
« Puisse Dieu vous accompagner dans votre quête, père capitaine de Soya. Nous prierons pour vous. »
Chapitre 29. Quand ils nous ont abattus, à quelques centaines de mètres à peine du portail d'Istrance, j'étais sûr que nous étions morts cette fois-ci. Le champ de confinement interne avait cédé à la seconde même où les générateurs étaient frappés. La face de la planète, qui se trouvait pour nous en haut, devint soudain irrémédiablement le bas. Le vaisseau tomba comme un ascenseur dont les câbles ont été subitement sectionnés. J'ai du mal à décrire les sensations qui suivirent. Je sais aujourd'hui que les champs internes passèrent automatiquement en mode catastrophe, ce qui, je peux vous l'assurer, n'est pas un euphémisme, et que durant les minutes suivantes, nous eûmes exactement l'impression d'être pris au milieu d'une cuve géante de gélatine.
ce qui était plus ou moins le cas, en fait. En une nanoseconde, le champ de catastrophe s'était étendu à tout le vaisseau et nous maintenait absolument immobiles tandis qu'il plongeait dans le fleuve, rebondissait sur le fond vaseux, mettait à feu sa tuyère à fusion, créant un jet de vapeur géant, et nous propulsait tant bien que mal à travers des tonnes d'eau, de vapeur, de boue et de débris des rives en train d'imploser, exécutant le dernier commandement qu'il avait reçu, franchir coûte que coûte le portail d'Istrans. Nous passâmes à 3 mètres sous la surface bouillonnante de l'eau, mais cela n'empêcha pas le portail de fonctionner. Le vaisseau nous raconta par la suite qu'au moment même où sa proue franchissait l'interface d'Istrans, l'eau derrière lui se transforma soudain en vapeur super chaude, comme si l'un des bâtiments de la PAX l'irradiait au RCC. Ironiquement, ce fut la vapeur qui dévia le rayon durant la milliseconde qui nous était nécessaire pour achever notre passage. Ignorant tous ces détails sur le moment, je regardais droit devant moi, totalement hébété. Le champ gélatineux m'aurait empêché de fermer les yeux même si je l'avais voulu. J'avais dans ma zone de vision les moniteurs externes disposés au pied du lit et le nez du vaisseau demeurait transparent. Je vis le portail d'Istrans se mettre à scintiller à travers la vapeur et le soleil brillait à la surface du fleuve jusqu'au moment où nous traversâmes le nuage et heurtâmes de nouveau la roche et la vase du fond. Puis nous nous retrouvâmes en travers de la berge, sous le soleil et le ciel bleu. Les moniteurs s'éteignirent et la coque s'opacifia. Durant plusieurs minutes, nous demeurâmes prisonniers dans une obscurité de caverne. Je flottais dans les airs, ou du moins j'en avais l'impression, car j'étais toujours pris dans la gélatine. En réalité, mes mains étaient écartées comme pour brasser l'atmosphère, ma jambe droite était à moitié repliée derrière moi comme pour courir, ma bouche était ouverte pour pousser un cri silencieux, et j'étais incapable d'osciller. Au début, la peur de suffoquer avait été très forte. Le chant de catastrophe pénétrait jusque dans ma bouche. Mais je recevais de l'oxygène. Ce chant, je devais l'apprendre plus tard, fonctionnait comme les coûteux masques à osmose utilisés pour la plongée sous-marine du temps de l'hégémonie. L'air filtrait à travers l'interface qui me collait au visage et à la gorge. Ce n'était pas une expérience particulièrement agréable. J'ai toujours été très sensible aux sensations d'étouffement. Mais mon angoisse restait assez supportable. Ce qui me troublait le plus, en fait, c'était l'obscurité, ainsi que la sensation d'être englué dans une toile d'araignée géante. Durant les longues minutes où je demeurais ainsi paralysé dans le noir, j'eus la vision d'un vaisseau définitivement désemparé, maintenant autour de nous son champ indestructible, nous laissant mourir de faim dans la position grotesque où nous nous trouvions, jusqu'à ce que ses réserves d'énergie se vident un jour et que nos squelettes blanchis par le temps s'écroulent sur le pont avec un bruit de castagnette, nos osselets roulant comme s'ils avaient été lancés par la main d'un sorcier invisible. En réalité, le champ se dilua progressivement au bout de 5 minutes. Les lumières revinrent, vacillèrent et furent remplacées par la lumière rouge des éclairages de secours, tandis que nous étions doucement déposés sur ce qui était une paroi peu de temps avant. La coque redevint transparente, mais il y avait très peu de lumière qui filtrait à travers la boue et les débris. Mon angle de vision figé ne m'avait permis de voir ni Aîné ni l'androïde pendant que nous étions pris dans la gélatine. Mais je les retrouvais lorsque le champ de force les déposa à côté de moi sur le pont. Je fus surpris d'entendre un cri sortir de ma propre gorge et m'aperçus que c'était celui que j'avais commencé à pousser au moment de la collision au sol. Durant quelques instants, nous restâmes assis tous les trois sur la paroi courbe, en nous tâtant les bras, les jambes et la tête, pour nous assurer que nous étions en un seul morceau. Ce fut Aîné qui rompit enfin le silence. « Sainte merde !» s'écria-t-elle en se mettant debout sur ses jambes tremblantes. « Vaisseau !» appela l'androïde. « Oui, Abétique, » répondit la voix imperturbable. « Êtes-vous endommagé ?» « Oui, Abétique. Je viens d'achever une évaluation complète. Mes bobines de champ, mes répulseurs et mes translateurs Hawking ont subi de sérieuses avaries, de même que plusieurs sections de la coque arrière et 2 des 4 ailerons d'atterrissage. »«
Vaisseau !» croassais-je.
Je fis un effort pour me remettre sur mes pieds et aller regarder à travers le nez transparent de la coque. Le soleil pénétrait par la paroi courbe au-dessus de nos têtes, mais la plus grande partie de la paroi était opacifiée par la boue, le sable et les autres débris qui s'y agglutinaient. L'eau noire du fleuve montait aux deux tiers des côtés, contre lesquels elle battait. J'avais l'impression que nous nous étions échoués sur une rive sablonneuse après avoir glissé sur plusieurs mètres dans le lit du fleuve.
« Vaisseau, » répétai-je, « vos capteurs externes fonctionnent ?»«
Uniquement le radar et les visuels. »
« Sommes-nous poursuivis? Les vaisseaux de l'APAC ont-ils franchi le portail derrière nous ?»«
Négatif, H. Endymion. Il n'y a aucun objet inorganique au sol ni dans l'air à portée de mes radars. »
Aîné s'avança jusqu'à la paroi verticale qui était antérieurement le sol moqueté de la chambre.
« Il n'y a pas non plus de troupier ?»
demanda-t-elle.
« Non, » répondit le vaisseau. « Le portail fonctionne toujours ?»
interrogea l'androïde.
« Négatif, Abétique. Le portail a cessé de fonctionner 18 nanosecondes après notre passage. »
Je me détendis un peu. Je regardais la fillette pour m'assurer visuellement qu'elle n'était pas blessée. Hormis le désordre de ses cheveux et la lueur d'excitation qui brillait dans ses yeux, elle avait l'air tout à fait indemne. Elle m'adressa un grand sourire.
Comment fait-on pour sortir d'ici, Roll ?
Levant les yeux, je compris ce qu'elle voulait dire. L'escalier central était à 3 mètres au-dessus de nos têtes.
Vaisseau, demandai-je, pouvez-vous refaire marcher le champ interne suffisamment longtemps pour que nous sortions ?
Désolé, fut la réponse. Les champs sont en panne et ne peuvent être réparés dans l'immédiat.
Pouvez-vous morpher une ouverture dans la coque au-dessus de nous ?
Je sentais que ma claustrophobie revenait en force.
C'est malheureusement impossible, fit le vaisseau. Je fonctionne en ce moment sur mes batteries. Le morphage exigerait plus d'énergie que ce dont je dispose. Le sas principal fonctionne cependant. Si vous pouvez y arriver, je vous l'ouvrirai.
Nous échangeâmes tous les trois des regards ennuyés.
Bravo, murmurai-je au bout d'un moment. Il va falloir ramper sur 30 mètres alors que tout est sans dessus-dessous.
Aîné avait toujours la tête levée vers l'ouverture de l'escalier.
La gravité n'est pas la même ici,
dit-elle.
Vous ne le sentez pas ?
Elle avait raison. L'air semblait plus léger. Je l'avais remarqué confusément, mais j'avais attribué cela à l'absence de champ de confinement interne. En fait, nous étions sur un monde différent, doté d'une gravité différente. Je regardais de nouveau l'enfant.
« Tu dis qu'on peut voler jusque-là ? »
demandai-je en désignant le lit accroché au mur, au-dessus de nous et l'escalier béant à côté.
« Non, » répliqua-t-elle. Mais la gravité locale semble inférieure à celle d'Hyperion. À vous deux, vous pouvez me faire grimper là-haut. Je vous lancerai une corde ou quelque chose, et nous arriverons jusqu'au sas. »
Nous fîmes exactement ce qu'elle venait de proposer. Nous la hissâmes jusqu'à l'ouverture de l'escalier. Elle se rétablit là-haut, tendit le bras pour tirer une couverture du lit, en noua une extrémité à la balustrade et laissa pendre la corde improvisée jusqu'à nous. Lorsque Abétique et moi nous fûmes en haut, nous avançâmes tous les trois en rampant sur la colonne centrale de l'escalier, en nous tenant à la paroi circulaire pour conserver notre équilibre. Peu à peu, nous progressâmes à travers le vaisseau en désordre éclairé en rouge. D'abord la bibliothèque, où coussins et volumes étaient entassés contre la coque inférieure malgré les élastiques destinés à maintenir les livres sur les rayons. Puis l'étage de la fosse holo, où le Stenway était toujours vissé au même endroit, contrairement à toutes nos affaires personnelles, qui avaient dégringolé jusqu'en bas. Nous fîmes une petite halte à ce niveau, le temps pour moi de récupérer le paquetage et les armes que j'avais laissées sur le canapé. Je glissai le pistolet à ma ceinture et sortis la corde que j'avais préparée dans mon paquetage. Avec ça, je me sentais plus prêt que tout à l'heure à affronter ce qui nous attendait à l'extérieur.
Lorsque nous arrivâmes dans la coursive inférieure, nous pûmes constater que le choc qui avait endommagé la zone de propulsion avait également dévasté les soutes. Une partie de la coursive était noircie et déformée vers l'extérieur. Les contenus des coffres de rangement étaient éparpillés le long des parois éventrées. La porte intérieure du sas était ouverte, mais à plusieurs mètres au-dessus de nous. Je dus prendre mon élan pour franchir la dernière longueur verticale de coursive et lancer une extrémité de la corde aux autres, accroupis au bord du sas. Puis je sautai sur la coque extérieure et me retrouvai au soleil. Je glissai la main dans le sas éclairé en rouge et rencontrai le poignet d'aîné que je hissai à mes côtés. Quelques secondes plus tard, je fis de même avec Abétique. Nous prîmes alors le temps de regarder autour de nous. Un nouveau monde étrange. Je ne saurais expliquer l'excitation qui s'empara de moi en cet instant, malgré notre accident, malgré nos difficultés, malgré tout ce qui nous était arrivé. J'avais sous les yeux un nouveau monde. L'effet sur moi était bien plus profond que je ne l'aurais attendu dans tous mes rêves d'exploration intersidérale. Cette planète ressemblait beaucoup à Hyperion. L'air était respirable, le ciel était bleu, quoique d'une couleur plus claire que le lapis d'Hyperion, et parsemé de nuages effilochés qui flottaient à haute altitude. Le fleuve, derrière nous, était plus large que sur le vecteur Renaissance. Les deux rives étaient couvertes d'une végétation très dense, une vraie jungle qui s'étendait à perte de vue sur ma droite et sur ma gauche, où le portail d'Istrance était à peine visible au milieu de toute cette luxuriance. Devant nous, la poupe du vaisseau avait tracé un véritable fossé dans le lit du fleuve et s'était échouée sur une bande sablonneuse. Au-delà, la jungle reprenait ses droits, recouvrant tout comme un rideau vert en loques sur une scène de théâtre. Même si tout cela vous paraît familier, ce n'était pour moi que sensation étrange. De drôles d'odeurs flottaient dans l'air. La pesanteur n'était pas normale. Le soleil brûlait un peu trop et les arbres de la jungle ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais. Si on m'avait demandé de les décrire, j'aurais alors parlé de gymnospermes géantes, environnées de nuées de petits oiseaux blancs d'une espèce qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais et qui s'était égayée au bruit maladroit de notre arrivée dans leur monde. Nous remontâmes la coque jusqu'à la grève. Une douce brise décoiffait Aîné et faisait battre un pan de ma chemise. L'air avait de subtiles senteurs d'épices. Des traces de thym et de cannelle peut-être, mais en plus doux et plus riche. Le nez du vaisseau n'était pas transparent de l'extérieur. Mais j'ignorais à l'époque s'il l'avait opacifié à notre départ ou s'il n'était transparent que de l'intérieur. Même couché ainsi sur le flanc, il aurait été trop haut et trop abrupt pour que nous puissions nous laisser glisser jusqu'au sol s'il ne s'était pas enfoncé à demi dans le sable. J'utilisai ma corde pour faire descendre Abétique le premier, puis ce fut le tour d'Aîné. Finalement, je mis mon paquetage au dos avec le fusil à plasma attaché dessus et me laissai glisser jusqu'en bas en faisant un roulé-boulet pour amortir mon arrivée sur le sol compact. C'était mon premier pas sur un monde étranger et ce n'était pas vraiment un pas, plutôt du sable plein la bouche. L'androïde et la petite fille m'aidèrent à me relever. Aîné avait la tête levée vers la coque. « Comment fait-on pour retourner ? » demanda-t-elle. « On construira une échelle, ou on se servira d'un arbre abattu, ou encore, je tapotai mon paquetage, j'ai apporté le tapis au King. » Nous reportâmes notre attention sur la grève et la jungle. La première était très étroite. À quelques mètres à peine de la proue, en direction de la forêt, le sable brillait dans le rouge sous les rayons éclatants d'un soleil anormalement dense et sombre. La brise était rafraîchissante, mais la chaleur était palpable dès que l'on avançait sous le couvert des grands arbres. 20 mètres plus haut, les gymnospermes agitaient leurs frondaisons et vibraient comme les antennes de gros insectes. « Attendez une seconde, » dis-je en m'avançant sous les arbres. Les sous-bois étaient denses, principalement envahis par une sorte de fougère grimpante. Le sol était couvert de tant de couches d'humus qu'il était plus spongieux que terreux. La jungle dégageait des odeurs d'humidité et de décomposition. Je songeais aux tiques draculéennes et aux jarres mordeurs de ma propre jungle natale et regardais soigneusement où je mettais les pieds. Des vrilles descendaient des troncs des gymnospermes, formant des tonnelles entrelacées dans la pénombre devant moi. Je regrettais de n'avoir pas mis une machette dans ma liste de matériel de base. Je n'avais pas fait 10 mètres à l'intérieur de la végétation lorsque soudain, à 1 mètre de mon visage, un gros buisson rouge orné d'énormes feuilles explosa, et les feuilles s'envolèrent vers la voûte de la forêt en faisant battre leurs lourdes ailes caoutchouteuses avec un bruit qui évoquait celui de nos grosses chauves-souris frugivores d'Hyperion, importées par nos ancêtres dans leur vaisseau d'ensemencement. « Zut !» m'exclamai-je. Je rebroussai vivement chemin en m'égratignant au passage. Ma chemise était déchirée en plusieurs endroits lorsque j'émergeais sur la grève où l'androïde et la petite fille m'attendaient. « C'est une vraie jungle, là-dedans !» leur dis-je. Nous marchâmes jusqu'au bord de l'eau. Assis sur une souche en partie submergée, nous contemplâmes notre vaisseau en silence. La pauvre chose ressemblait à une baleine échouée comme on peut en voir dans les eaux de l'ancienne Terre. « Je me demande s'il revolera un jour », murmurai-je en rompant une barre de chocolat pour en donner une moitié à l'enfant et l'autre à l'androïde à la peau bleue. « Oh, je pense que oui », fit une voix à mon poignet. J'avoue que je dus faire un bond de plusieurs centimètres. J'avais complètement oublié le bracelet Persoc. « Vaisseau ?» demandai-je en levant le bras à hauteur de ma bouche pour parler dans le bracelet, comme je le faisais à ma radio portable dans la garde nationale. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » me dit la voix du vaisseau. « Je vous entends très clairement, merci. Vous avez demandé si je revolerai un jour ? » ?»« La réponse est oui, très probablement. J'ai eu des réparations plus compliquées à effectuer à mon arrivée dans la cité d'Endymion lorsque je suis retourné sur Hyperion. « Parfait, » déclarai-je. « Je suis heureux que vous puissiez vous auto-réparer. Avez-vous besoin de matières premières, de pièces de rechange ?» « Non, merci, H. Endymion. Il s'agit surtout pour moi de réaffecter des matériaux existants et de refaçonner certaines unités endommagées. Les réparations ne devraient pas demander longtemps. »« Pas longtemps ? C'est-à-dire ?» demanda Aîné en finissant sa barre de chocolat et en se léchant les doigts. « 6 mois standard, à moins que je ne me heurte à des difficultés imprévues. » Nous nous entre-regardâmes tous les trois. Je me retournai de nouveau vers la jungle. Le soleil semblait à présent plus bas. Ses rayons illuminaient horizontalement le faîte des gymnospermes, plongeant les régions inférieures dans une pénombre encore plus profonde. « 6 mois, » répétai-je, « sauf difficultés imprévues. » « Une idée ?» demandai-je à mes compagnons. Aîné se rinça les doigts dans l'eau, se rafraîchit la figure et lissa ses cheveux en arrière. « Nous sommes sur le Tétis ?» dit-elle. « Nous pourrions le descendre jusqu'au portail suivant ?»« Tu peux refaire ton tour de passe-passe ?» Elle s'essuya le visage d'un revers de la main en demandant « Quel tour de passe-passe ?» Je fis un geste vague de la main. « Oh, 3 fois rien, faire marcher une machine qui n'a pas fonctionné depuis 3 siècles, ce genre de truc. » Elle tourna vers moi ses yeux foncés où brillait une lueur de sincérité. « Je n'étais pas sûre d'y arriver, Roll. » Elle se tourna vers Abétique qui suivait impassible notre conversation. « Je vous jure !» fit-elle. « Que se serait-il passé si tu n'avais pas réussi ?» demandai-je. « Il nous aurait capturés. » Je pense qu'il vous aurait relâché tous les deux. Il m'aurait conduite sur Passem. Et plus personne n'aurait jamais entendu parler de moi. Il y avait quelque chose dans la manière froide et impersonnelle dont elle disait cela qui me donnait la chair de poule. « D'accord, » murmurai-je. « Ça a marché. Mais comment as-tu fait ça ?» Elle fit son petit geste de la main qui commençait à me devenir familier.
« Je ne sais pas très bien, » dit-elle. « J'ai vu dans mes rêves que le portail me laisserait probablement passer. »«
Te laisserait passer ?»«
Oui. Je pensais bien qu'il me reconnaîtrait, et c'est ce qui est arrivé.
Je posais les mains à plat sur mes genoux, les jambes tendues, les talons de mes bottes plantés dans le sable rouge. Tu parles du portail comme s'il s'agissait d'un organisme vivant et intelligent, lui fis-je remarquer. Elle se retourna vers l'arche, qui se trouvait à 500 mètres derrière nous.
Dans un sens, c'est bien ce qu'il est,
dit-elle.
Ce n'est pas facile à expliquer.
Mais tu es sûre que les troupes de la Pax ne peuvent pas nous suivre?
Oh, oui. Le portail ne s'activera pour personne d'autre.
Je haussai légèrement les sourcils. Dans ce cas, Abetlik et moi? Et le vaisseau? Comment avons-nous fait pour passer? Elle sourit.
Vous étiez avec moi?
D'accord, déclarai-je en me redressant subitement. On mettra ça au clair plus tard. Tout d'abord, il faut que nous établissions un plan. Est-ce que nous partons sans attendre en reconnaissance ou est-ce que nous retournons d'abord chercher toutes nos affaires dans le vaisseau? Aîné laissa errer un regard songeur à la surface de l'eau noire.
C'est alors que Robinson Crusoé se déshabilla, plongea pour nager jusqu'à son navire, remplit ses poches de biscuits et retourna sur le rivage.
« Hein ?» demandai-je en mettant mon paquetage sur le dos, les sourcils froncés.
« Ce n'est rien, »
dit-elle en se levant aussi.
« Juste un passage d'un vieux livre pré-égyrien que mon oncle Martin me lisait parfois. Il disait tout le temps que les correcteurs d'épreuves étaient des trous du cul incompétents. Même 1400 ans dans le passé. »
Je me tournai vers l'androïde. Vous comprenez ce qu'elle dit, Abetlik? Il eut ce petit tressaillement au coin des lèvres que j'avais appris à considérer comme un sourire chez lui. Mon rôle n'est pas de comprendre Achéné, Achandimion. Je soupirai.
Très bien. Revenons à nos moutons.
Vaut-il mieux partir en reconnaissance avant la tombée de la nuit ou sortir nos affaires du vaisseau?
Je suis pour aller faire un tour, déclara Aînée.
Elle jeta un regard à la jungle qui s'obscurcissait à vue d'œil.
Mais pas là-dedans,
ajouta-t-elle.
D'accord,
murmurai-je. Je sortis le tapis au king de mon paquetage où il était roulé sous le rabat et le déployai sur le sable. Nous allons voir si ça marche sur cette planète, déclarai-je. Je rapprochai soudain mon bracelet persoc de mes lèvres pour demander. Sur quel monde sommes-nous, à propos vaisseau? Il y eut une seconde d'hésitation, comme si le vaisseau était absorbé dans des problèmes tout à fait différents, puis il répondit.
Désolé, je suis dans l'incapacité de l'identifier en raison de l'état présent de mes banques de mémoire. Mes systèmes de navigation pourraient procéder à une analyse, naturellement, mais il faut que j'observe préalablement les étoiles. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune émission électromagnétique ou sur hyperfréquence de provenance autre que naturelle actuellement détectable dans ce secteur. Aucun satellite relais, aucun objet artificiel en orbite synchrone au-dessus de nos têtes.
Très bien, murmurai-je. Mais cela ne nous dit pas où nous sommes. Je me tournai vers la fillette.
Comment pourrais-je le savoir?
Demanda-t-elle. C'est toi qui nous a amenés ici. Je me rendis compte que j'étais en train de perdre patience avec elle. J'étais excédé, je n'y pouvais rien.
Je n'ai rien fait d'autre qu'activer le portail Roll,
me dit-elle en secouant la tête.
Ma seule motivation était d'échapper à ce père capitaine je ne sais plus qui et à tous ces vaisseaux. Rien de plus.
Et de trouver ton architecte.
C'est vrai,
reconnut-elle. Je me tournai vers la jungle et le fleuve.
Ça n'a pas l'air d'un endroit très prometteur pour trouver un architecte.
Je suppose que tu as raison. La meilleure chose à faire, c'est de descendre le fleuve jusqu'à ce qu'on arrive au portail suivant. L'arche environnée de végétation du portail d'Istrance qui nous avait conduit ici attira alors mon regard. Je compris pourquoi nous nous étions échoués sur cette bande de sable. Le fleuve formait ici une courbe sur la droite à environ 500 mètres du portail. Le vaisseau avait continué tout droit sur sa lancée et il s'était échoué sur la rive.
« Une seconde, » déclarai-je.
Est-ce qu'on ne pourrait pas reprogrammer ce portail pour une autre destination ?
Pourquoi faut-il que nous en cherchions un autre ?
Abétique recula pour avoir une meilleure perspective de l'arche.
Les portails du fleuve Tétis ne fonctionnaient pas comme les millions de terminaux d'Istrance en activité, murmura-t-il. Ils ne fonctionnaient pas non plus comme ceux du confluent ou comme les portails spatiaux.
Il sortit un petit livre de sa poche et me montra le titre « Guide du voyageur à travers le Retz ».
Il semble que le Tétis ait été conçu à l'origine pour la promenade et la relaxation. La distance entre les portails variait de quelques kilomètres à plusieurs centaines.
« Plusieurs centaines ? »
m'exclamai-je. « Je m'étais attendu à trouver le portail suivant au détour du prochain méandre. »
« Parfaitement, » poursuivit Abétique. L'idée, si je comprends bien, était d'offrir aux voyageurs la plus grande variété possible de mondes, de paysages et d'expériences. À cet effet, seul le portail situé en aval était programmé pour s'activer et sa destination était choisie de manière aléatoire. Les sections du fleuve, chacune sur un monde différent, étaient comme les cartes d'un paquet que l'on remue sans cesse. Je secouai la tête.
Les cantos du vieux poète disent que ces sections ont été dissociées après la chute et qu'elles se sont desséchées comme des points d'eau abandonnés dans le désert.
Aîné renifla.
L'oncle Martin raconte n'importe quoi parfois, Rol. Il n'a jamais vu ce qu'est devenu le Tétis après la chute. N'oublie pas qu'il se trouvait alors sur Hyperion. Il n'est jamais retourné dans le Retz. Il a inventé tous ces trucs.
Ce n'était pas très gentil de parler ainsi du plus grand monument littéraire de ces trois derniers siècles, ni du vieux poète légendaire qu'il avait composé. Mais je fus pris d'un rire que j'eus du mal à arrêter. Lorsque je me calmai, je vis qu'Aîné me regardait d'une drôle de manière.
« Tu es sûr que ça va, Rol ?»«
Oui, » répliquai-je, « je suis heureux, c'est tout. » Je me tournai avec un geste de la main qui englobait la jungle, le fleuve, le portail d'Istrance, et même notre vaisseau échoué sur le sable comme une baleine. « Je ne sais pas pourquoi, mais je suis heureux, » répétai-je.
Aînée hocha la tête comme si elle me comprenait parfaitement. Je me tournai vers l'androïde pour lui demander. « Votre livre vous dit-il sur quel monde nous sommes ? Un ciel bleu ? La jungle ? À mon avis, il est au moins à 9,5 sur l'échelle de Solmef. La chose me paraît plutôt rare. Que dit votre bouquin ?»
Abétique feuilleta rapidement les pages.
« Je ne me souviens pas d'avoir lu la description d'une telle jungle dans ses chapitres à Chandimion, mais je le relirai attentivement. »«
Allons jeter un coup d'œil !»
fit Aîné d'une voix impatiente. « Il faudrait d'abord aller chercher un certain nombre de choses à bord, » proposai-je. « J'ai établi une petite liste. »«
Ça va prendre des heures !»
protesta Aîné.
« Le soleil va se coucher avant que nous ne soyons prêts. »«
Et il faut d'abord nous organiser !» ripostai-je, décidé à défendre mon point de vue.
« Si je peux me permettre de suggérer quelque chose, » fit Abétique d'une voix douce, « vous pourriez peut-être partir tous les deux en reconnaissance pendant que je m'occupe de sortir du vaisseau les objets qui figurent sur votre liste, à moins que vous ne jugiez préférable de passer la nuit à bord. »
Nous regardâmes notre pauvre vaisseau. Le courant bouillonnait autour de lui. Juste au-dessus du niveau de l'eau, ses ailerons de queue n'étaient plus que des moignons déformés et noircis. L'idée de dormir au milieu du fouillis qu'était devenu l'intérieur, éclairé par cette horrible lumière rouge, me rebutait.
« Nous serions peut-être plus en sécurité à bord, c'est vrai, » reconnus-je. « Mais le mieux est de sortir d'abord les affaires dont nous aurons besoin pour descendre le fleuve. Ensuite, nous déciderons. »
L'androïde et moi, nous discutâmes encore plusieurs minutes. J'avais mon fusil à plasma avec moi, ainsi que le 45 dans son étui à ma ceinture. Mais j'avais besoin du calibre 16 que j'avais mis de côté, ainsi que de l'équipement de camping que j'avais vu dans les coffres AEV. Je ne savais pas encore comment nous allions nous y prendre pour descendre le fleuve. Le tapis Hawking pourrait probablement nous prendre tous les trois, mais il n'y aurait plus de place pour nos affaires. Nous décidâmes donc de sortir trois des quatre scooters pliés dans leur logement sous les coffres à scaphandre. Il y avait aussi une ceinture de vol qui pourrait nous servir et quelques accessoires de camping, un cube de chauffage,
des sacs de couchage, des matelas de mousse, une torche laser pour chacun de nous et le casque com que j'avais déjà remarqué.
Ah, il faudrait aussi une machette si vous en trouvez une, ajoutai-je. Il y a plusieurs boîtes de couteaux et de lames universelles dans les coffres à EV, mais je ne me souviens pas d'en avoir vu une.
Abétik et moi, nous nous avançâmes jusqu'au bout de l'étroite langue de sable, trouvâmes un arbre abattu sur la rive et le traînâmes, l'exercice m'essouffla et m'arracha quelques jurons, jusqu'au vaisseau pour qu'il nous serve d'échelle afin de grimper sur la coque.
Voyez aussi si vous trouvez une échelle de corde dans tout ce fouillis, demandai-je à l'androïde, et peut-être un radeau gonflable ou un truc comme ça.
C'est tout ? Demanda Abétik d'une voix sarcastique.
Non, un sauna si possible, et un bar bien garni, avec un orchestre de 12 musiciens pour nous jouer quelque chose pendant que nous faisons nos bagages.
Je ferai de mon mieux, Achandimion, me dit l'androïde. Il commença à grimper sur la coque le long du tronc.
Je me sentais coupable de lui laisser tout le travail, mais il me semblait avisé d'essayer de savoir le plus tôt possible à quelle distance nous étions du portail suivant, et je n'avais pas l'intention de laisser Aînée partir toute seule en reconnaissance. Elle prit place derrière moi sur le tapis et je tirai sur les fils de l'activateur. Le tapis se raidit aussitôt et s'éleva à quelques centimètres du sable mouillé.
« Teigne, » me dit-elle.
« Hein ?»«
Ça veut dire méchant. L'oncle Martin disait ça quand il était petit sur l'ancienne terre. »
Je soupirai de nouveau et appuyai sur le motif de vol. Nous nous élevâmes en spirale et grimpâmes bientôt au-dessus de la cime des arbres. Le soleil était maintenant beaucoup plus bas dans la direction que je supposais être l'ouest.
« Vaisseau ?» demandai-je dans mon bracelet persoc.
« Oui. »
Le ton de sa voix me donnait toujours l'impression que je venais d'interrompre une tâche cruciale.
« Est-ce bien à vous que je parle ou à la banque de données que vous avez chargée ?»«
Tant que nous sommes à portée de communicateur, à Chandimion, c'est bien à moi que vous vous adressez. »«
Quelle est cette portée ?»
Nous survolions le fleuve à une trentaine de mètres d'altitude. Abétik nous fit un grand signe. Il se trouvait à présent devant le sas ouvert.
« 20 000 kilomètres, ou bien la courbure de la planète, » me répondit le vaisseau.
« Le cas qui se présente le premier. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de satellite détectable autour de cette planète qui pourrait me servir de relais. »
J'appuyai sur le motif de vol et nous commençâmes à remonter le fleuve en direction de l'arche envahie par la végétation.
« Pouvez-vous communiquer avec moi à travers un portail distrance ?» interrogeai-je.
« Un portail en activité ? Comment pourrais-je faire une chose pareille à Chandimion ? Vous seriez à des années-lumière de distance. »
Ce vaisseau avait une façon bien à lui de me faire paraître complètement stupide et provincial à mes propres yeux. J'appréciais généralement sa compagnie, mais j'avoue que l'idée de le laisser derrière pendant quelque temps ne me déplaisait pas forcément.
Aînée se pencha contre moi et parla directement dans mon oreille pour couvrir le bruit du vent causé par notre accélération.
« Les anciens portails étaient reliés par des lignes en fibre optique, » me dit-elle. « Et ça marchait. Peut-être pas aussi bien que le distance, mais ça marchait quand même. »
Donc, si nous voulons continuer à communiquer avec le vaisseau quand nous descendrons le fleuve, il suffit de tendre une ligne téléphonique ? Demandai-je par-dessus mon épaule.
Du coin de l'œil, je la vis sourire, mais la bêtise de ma remarque m'inspira néanmoins une pensée.
Si on ne peut pas remonter le fleuve à l'aide des portails, comment fera-t-on pour retourner au vaisseau ?
Elle posa la main sur mon épaule. Le portail approchait maintenant très rapidement.
« Il suffit de descendre toujours dans le même sens jusqu'à ce qu'on ait fait un tour complet !»
cria-t-elle pour couvrir le bruit du vent.
« Le fleuve Tétis formait une grande boucle !»
Je me tournai pour la regarder.
« Tu parles sérieusement, ma belle ? On dit qu'il y avait 200 mondes reliés par ce fleuve. « Au moins 200 !»
rectifia Aînée.
« À notre connaissance !»
Je ne comprenais pas le sens de cette dernière remarque. Je soupirai de nouveau. Je ralentis à l'approche du portail.
Si chaque section du fleuve fait une centaine de kilomètres, murmurai-je, cela représente 20 000 kilomètres à parcourir au bas mot.
Elle demeura silencieuse. J'arrêtai le tapis en vol stationnaire tout près du portail. Je ne m'étais pas rendu compte jusqu'ici de ses dimensions réelles. Le cadre de l'arche semblait être en métal, gravé de nombreux motifs complexes, de compartiments, d'indentations, peut-être de caractères d'écriture cryptique. Mais la jungle l'avait recouvert de ses lianes et de ses mousses tropicales. Ce que j'avais pris tout d'abord pour de la rouille n'était rien d'autre que des chauves-souris en forme de feuilles agglutinées aux enchevêtrements de plantes grimpantes. Je m'écartais d'elles le plus possible. « Et s'il s'active ?» demandai-je tandis que nous demeurions en vol stationnaire à un mètre ou deux du dessous de l'arche.
« Essaie, » me dit Aîné.
Je fis avancer le tapis très lentement, en m'arrêtant presque au moment où ses franges atteignaient le plan invisible de l'arche. Rien ne se produisit. Nous passâmes au travers. Je fis faire au tapis un demi-tour complet et nous revînmes par le sud. Le portail d'Istrance n'était qu'une arche de métal ornée qui enjambait le fleuve à une très grande hauteur.
« Il est mort, » déclarai-je, « aussi raide que la queue de Kelsey. »
C'était l'une des expressions favorites de Grand Dame. Elle ne l'utilisait que quand aucun enfant n'était censé être à portée d'oreille, mais je m'avisais subitement que j'avais une petite fille derrière moi.
« Excuse-moi, »
lui dis-je par-dessus mon épaule le visage empourpré. J'avais peut-être passé trop d'années dans l'armée, ou parmi les bateliers de barge, ou encore comme croupier dans les casinos. J'étais devenu un malotru. Elle rejeta la tête en arrière pour éclater de rire.
« Tu oublies que j'ai grandi au contact de mon oncle Martin !» me dit-elle. « J'en ai entendu d'autres, Roll. »
Nous retournâmes au vaisseau. Abétic était en train de décharger des palettes de matériel sur la rive. Il nous fit un signe de sa main bleue en réponse au nôtre.
« Veux-tu que j'aille vers l'aval pour essayer de voir le portail suivant ?» demandai-je.
« Bien sûr !»
me dit Aîné. Nous descendîmes donc dans le sens du courant. Il y avait très peu d'autres plages de sable ou d'interruptions dans la jungle. La végétation recouvrait tout jusqu'au bord de l'eau. Cela m'ennuyait de ne pas savoir dans quelle direction nous allions. Je sortis donc mon compas inertiel du paquetage et l'activai. Il m'avait bien servi sur Hyperion, où le champ magnétique était trop erratique pour qu'on puisse s'y fier, mais il ne m'était d'aucune utilité ici. Comme dans le cas du système de guidage du vaisseau, il ne fonctionnait parfaitement que s'il connaissait son point de départ, mais c'était un renseignement précieux que nous avions perdu en franchissant le portail. Vaisseau, demandai-je en m'adressant à mon bracelet Persoc, pouvez-vous faire un relevé de notre position au compas magnétique?
Oui. Fut la réponse immédiate, mais en l'absence de tout renseignement précis sur le nord magnétique de cette planète, la direction de votre déplacement ne pourra faire l'objet que d'une estimation.
Donnez-moi cette estimation, je vous prie. J'inclinai légèrement le tapis pour lui faire suivre une large courbe du fleuve. Il s'était de nouveau élargi. Il devait faire près d'un kilomètre à cet endroit. Le courant semblait rapide, mais pas particulièrement dangereux. Mon expérience des barges sur le Cans m'avait appris à repérer les tourbillons, les troncs d'arbres, les bancs de sable et autres embûches. Ce cours d'eau me paraissait parfaitement navigable.
« Vous faites route approximativement est-sud-est », m'annonça le Persoc. « Votre vitesse propre est de 68 km à l'heure. Les capteurs indiquent que le champ de déflexion de votre tapis Hawking est à 8%. Votre altitude est de...
D'accord. Est-sud-est. » Le soleil descendait derrière nous. Ce monde avait le même sens de rotation que l'ancienne Terre et Hyperion. Le cours du fleuve était à présent rectiligne. J'accélérais légèrement. Dans les labyrinthes d'Hyperion, je filais à près de 300 km à l'heure, mais je n'avais nullement l'intention de battre des records ici, à moins d'y être forcé. Les fils de vol de ce vieux tapis conservaient leur charge pendant longtemps, mais il n'y avait aucune raison de les épuiser plus vite que nécessaire. Je pris mentalement note de les recharger sur les accus du vaisseau avant notre départ, même si nous choisissions les scooters comme mode de transport.
« Regarde !»
me dit Aîné en me montrant quelque chose sur ma gauche. Au loin, en direction du nord, illuminé par les rayons du soleil à présent en train de décliner nettement, j'aperçus quelque chose qui ressemblait à un sommet de Mesa, ou à une énorme construction qui s'élevait au-dessus de la voûte de la jungle.
« On va jeter un coup d'œil ?»
me demanda-t-elle. Je n'aimais pas trop ça.
Nous avions un objectif, nous avions une limite de temps, le coucher du soleil pour commencer, et nous avions mille raisons de ne pas prendre de risques en nous approchant des artefacts que nous rencontrions. Cette Mesa ou cette tour pouvait très bien être, après tout, le QG planétaire de la Pax.
Comme tu voudras, répondis-je.
Tout en me donnant mentalement des claques parce que je réagissais comme un idiot, j'inclinais le tapis Hawking en direction du nord. La chose se trouvait bien plus loin que je ne l'avais cru de prime abord. J'accélérais jusqu'à 200 km à l'heure, mais il nous fallut néanmoins 10 bonnes minutes pour y arriver.
« Excusez-moi, à Chandimion, me dit la voix du vaisseau à mon poignet, mais vous avez dévié de votre cap initial et vous faites route à présent au nord-nord-est, soit un angle de 103 degrés environ par rapport à votre direction première.
Nous allons voir une tour ou un monticule ou je ne sais pas trop quoi qui émerge au-dessus de la jungle droit devant nous au nord. Vous n'avez rien sur votre radar ? » ?»«
Négatif, fit la voix du vaisseau. Je crus déceler de nouveau une certaine sécheresse dans son intonation. Mon angle de balayage, coincé ici dans la boue, n'est pas idéal. Tout ce qui se trouve au-dessous d'un angle d'inclinaison de 28 degrés par rapport à l'horizon est perdu dans le fouillis. Vous êtes juste à la limite de mon angle de détection. Encore 20 km au nord et je vous perds.
« Ce n'est pas grave, lui dis-je. Nous allons juste voir ce que c'est et nous retournons vers le fleuve. »
Pourquoi ? Ce n'était pas prévu dans votre plan de vol. Aîné se pencha en avant et me souleva le poignet.
« Parce que nous sommes humains !» articula-t-elle.
Le vaisseau ne répondit pas. La structure, lorsque nous l'atteignîmes finalement, s'élevait à 100 mètres au-dessus de la voûte feuillue. Sa base était si entourée de gymnospermes géantes qu'on eût dit un piton dentelé par l'érosion se dressant au milieu d'un océan vert. Elle semblait à la fois naturelle et artificielle, modifiée par la main de l'homme ou de quelque autre créature intelligente. Elle faisait environ 70 mètres de diamètre et semblait faite de roches rouges, peut-être une espèce de grès. Le soleil couchant, à présent à 10 degrés ou moins de la voûte horizon de la jungle, la baignait d'une riche lumière rosée. Ça et là, sur ses faces est et ouest, on distinguait des ouvertures que nous prîmes au début pour des échancrures naturelles, dues à l'érosion du vent ou de l'eau. Nous pûmes cependant constater, en nous approchant encore, qu'elles avaient été creusées dans la roche. Sur la face ouest, il y avait aussi des creux taillés à égale distance les uns des autres et suffisamment rapprochés pour pouvoir servir de prise à des mains et des pieds humains. Mais il n'était peut-être pas assez profond, et l'idée de grimper le long de ce piton rocheux sur plus de 100 mètres, avec pour seule aide ses échancrures superficielles, me nouait les boyaux d'angoisse.
On ne peut pas se rapprocher ? Me demanda Aîné.
J'avais fait lentement le tour du piton à une cinquantaine de mètres de distance.
Je ne sais pas si ce serait prudent, lui dis-je.
Nous sommes déjà à portée d'armes à feu. Je ne voudrais pas tenter quelqu'un ou quelque chose qui disposerait d'un javelot ou d'un arc et de flèches.
Avec un arc, on pourrait nous tirer dessus à la distance où nous sommes,
répliqua Aîné, mais sans insister pour que je me rapproche.
Un instant, je crus voir l'éclat de quelque chose qui se déplaçait dans l'une des ouvertures de la paroi. Mais je décidai qu'il s'agissait d'un effet du soleil couchant.
Ça te suffit comme ça ? Demandai-je.
« Pas vraiment, »
me répondit-elle. Ses petites mains s'agrippèrent à mes épaules, tandis que le tapis penchait pour prendre son virage. Le vent décoiffait mes cheveux coupés courts. Lorsque je me retournai pour regarder Aîné, je vis que sa chevelure flottait derrière elle.
« Il faut qu'on retourne quand même, » déclarai-je.
J'orientai le tapis vers le sud, où se trouvait le fleuve, et accélérai de nouveau. La voûte des gymnospermes, 40 mètres plus bas, semblait douce et unie comme du duvet. On avait l'impression qu'on pouvait s'y poser en toute sécurité. Un élan de panique me traversa tandis que je songeais aux conséquences si jamais nous étions amenés à le faire. Mais Abétique a la ceinture de vol et les scooters, pensais-je. Il peut venir nous chercher s'il le faut. Nous arrivâmes de nouveau en vue du fleuve, à 1 km environ au sud-est de l'endroit où nous l'avions quitté.
L'horizon, à une trentaine de kilomètres devant nous, était dégagé, mais il n'y avait pas le moindre portail d'Istrance en vue.
« De quel côté ?» demandai-je.
« Continuons encore un peu. »
Je hochai la tête et virai sur la gauche, m'alignant sur le cours du fleuve. Nous n'avions vu jusque-là aucun signe de vie animale, excepté les oiseaux blancs et les chauves-souris végétales. J'étais en train de songer aux marches creusées dans le monolithe rouge, lorsque je sentis Kenney me tirer par la manche. Elle me désignait quelque chose qui se trouvait en bas. C'était très gros, et cela se déplaçait juste sous la surface de l'eau. Le soleil bas créait trop de reflets pour que nous puissions discerner suffisamment de détails, mais cela avait une peau comme du cuir et une sorte de queue hérissée de piquants, avec des ailerons ou des franges de cils sur le côté. La créature devait faire 8 ou 10 mètres de long. Elle plongea, et nous la dépassâmes avant que j'aie pu voir d'autres détails.
« C'était une espèce de manta d'eau douce !»
me cria Aîné par-dessus mon épaule. Nous avions maintenant acquis une bonne vitesse, et le bruit du vent contre le champ de déflexion était assez assourdissant.
« En plus gros !»
répliquai-je. J'avais longtemps travaillé avec des attelages de manta sur le fleuve Canse, mais je n'en avais jamais vu d'aussi grosse. Soudain, notre tapis Hawking me paraissait bien léger et insubstantiel. Je descendis d'une trentaine de mètres. Nous rasions à présent la cime des arbres, de sorte qu'une chute du vieil engin volant n'aurait pas nécessairement des conséquences fatales s'il décidait de nous laisser subitement en plan. Nous virâmes en direction du sud pour suivre un nouveau méandre. Là, le fleuve devenait rapidement plus étroit et nous entendîmes bientôt un grondement caractéristique annonçant un mur d'écume blanche. La cataracte n'était pas vraiment spectaculaire. Sa dénivellation ne dépassait pas 15 mètres. Mais d'énormes volumes d'eau se déversaient entre des parois rocheuses distantes d'une centaine de mètres, alors qu'en amont, le fleuve avait 1 kilomètre de large, et la force de la chute était impressionnante. En bas, il y avait un rapide qui passait sur les boulis de la cataracte, puis un lac assez large, et le fleuve reprenait son cours d'une manière relativement paisible. Un instant, je me demandais stupidement si la créature que nous avions dépassée savait ce qui l'attendait.
Je ne crois pas que nous puissions découvrir ce portail à temps pour rentrer avant la nuit,
dis-je à Aîné par-dessus mon épaule.
Nous ne savons même pas s'il y en a un en aval.
Il y en a un,
affirma la fillette.
Nous avons parcouru au moins 100 kilomètres.
Ce n'est qu'une moyenne que nous a donnée Abétic. Il faudra peut-être en faire 200 ou 300 pour trouver le prochain portail. Toutes les sections du Tétis en avaient plusieurs, et elles n'étaient jamais égales en longueur, y compris sur un même monde.
« Mais comment sais-tu tout ça ?»
demandai-je en tordant la nuque pour la regarder.
« C'est ma mère qui me l'a dit. Elle était détective. Elle s'est occupée un jour d'une affaire de divorce où il a fallu qu'elle suive un type marié et sa maîtresse pendant 3 semaines sur le Tétis.
« C'est quoi une affaire de divorce ?
Peu importe !»
Elle pivota sur son derrière de manière à me tourner complètement le dos. Elle avait toujours les jambes croisées sous elle et ses cheveux battaient maintenant son visage.
« Tu as raison !»
me dit-elle.
« Allons retrouver le vaisseau et Abétic. On reviendra demain !»
Je pris un virage à 180 degrés et accélérai en direction de l'ouest. Nous traversâmes la cataracte à basse altitude en riant aux éclats tandis que les embruns nous aspergeaient le visage et les mains.
« Achandimion !» La voix qui sortait du persoc n'était plus celle du vaisseau, mais de l'androïde.
« Oui, » répondis-je.
« Nous arrivons dans 25 à 30 minutes !»«
Je sais, » fit la voix calme de l'homme bleu. « J'ai vu la tour, la chute d'eau et tout le reste dans la fosse solo. »
Aîné et moi, nous nous regardâmes avec une expression qui devait être des plus comiques.
« Vous voulez dire que ce persoc vous renvoie des images ?»«
Naturellement !» fit la voix du vaisseau. « Holo ou vidéo, au choix. Nous vous avons suivi en holo. » « Bien que le résultat soit un peu curieux, » déclara Abétic, « dans la mesure où la fosse holo ressemble à présent à une niche dans la paroi. Mais ce n'est pas pour savoir où vous êtes que je vous appelais. »«
Pourquoi alors ?»«
Il semble que nous ayons de la visite. » »«
Une grosse créature du fleuve ?
Demanda Aîné.
Une espèce de manta, en plus grand ?
Pas exactement, fit la voix placide de l'androïde. Il s'agit du Gritch.